الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو 28 من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس هو 23 في كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، والباب هو الباب الذي يتعلق بغزوة الخندق. Nous sommes le 24 août 2014 et aujourd'hui, inshallah, nous allons entrer dans le 23e cours de l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tiré du livre de l'imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Nous nous sommes arrêtés en plein milieu de la bataille des coalisés. Nous avons pu voir quelles sont les causes de cette bataille, et nous avons vu que la tribu juive de Banu Nadir a cherché à se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce sont eux les traîtres et non pas le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont essayé de le tuer lorsque le prophète l'a appris alayhi salatu wa sallam. Il est retourné à Médine, a réuni ses compagnons et revenu chez eux. Il les a assiégés et leur a ordonné de quitter la ville de Médine et d'aller vivre ailleurs. Ils n'ont pas avalé cette défaite. Ils sont donc allés voir les koufars de Mecca ainsi que ceux de Ratafan, une région du Najd, afin de former une coalition dans le but d'éradiquer les musulmans et de les éliminer de la surface de la terre. Et ils ont donc regroupé 10 000 personnes qui sont venues attaquer la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le conseil de son noble compagnon Salman le Perse al-Farisi radiyallahu anhu, lorsqu'il lui a montré que en Perse, lorsque l'ennemi venait et qu'il était armé, il creusait autour de la ville une tranchée qui allait empêcher l'ennemi de s'introduire dans la ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé cette idée judicieuse et intelligente. Il l'a donc acceptée et l'a mise en pratique. C'est alors qu'il s'est mis à creuser la tranchée qui était en longueur, elle faisait 2,5 km, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons. Et cette tranchée a été creusée au nord de la ville de Médine. Quant à l'est et à l'ouest, il s'y trouvait des vallées qui rendaient l'entrée dans la ville de Médine difficile pour des gens qui venaient sur des montures telles que des chameaux, des chevaux ou bien à pied. Quant au sud de la ville de Médine, il s'y trouvait des habitations, notamment celles de la tribu juive des Banu Qurayza. Ainsi, le seul moyen de s'introduire dans Médine était le nord. Et c'est au nord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusé avec ses compagnons cette tranchée. Et lorsque les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala sont arrivés, ils ont été étonnés d'une chose qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils ne connaissaient pas cette technique dans la guerre qui avait pour but de se protéger de la nuisance de l'ennemi. Et d'ailleurs, lorsque les compagnons ont creusé cette tranchée, toute la terre qu'ils ont sortie en creusant, ils l'ont mis du côté de Médine. Ce qui fait que lorsque l'ennemi est arrivé, il a trouvé en face de lui une tranchée et derrière cette tranchée une bosse de terre, ce qui rendait l'entrée dans la ville de Médine presque impossible. Ensuite, l'imam Ibn Kathir rahimahullah nous a dit que le nombre des musulmans était 3000. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes arrêtés. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit: wa za'ama Ibn Ishaq annahu innama kana fi 700 wa hadha ghalatun min ghazwati Uhud ay kanu 700 fi Uhud. والله أعلم فجعلوا ظهورهم إلى سلع سلع اسم لجبل وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري الذراري الأولاد فجعلوا في آطام المدينة الآطام الحصون واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans au nombre de 3000 protégés par la tranchée et le dos tourné au mont Sal'a. Le mont Sal'a, c'est un mont qui se situe dans la ville de Médine, se préparèrent à affronter l'ennemi. Néanmoins, selon Ibn Ishaq, qui est un grand historien spécialiste dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient à peine 700. Ce qui, mais Allah en est mieux informé que quiconque, constitue une confusion avec la bataille de Uhud. C'est-à-dire que l'imam Ibn Ishaq, rahimahullah, dans son livre la sira, a estimé le nombre de musulmans lors de la bataille des coalisés à 700. Quant à l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il a corrigé le savant Ibn Ishaq en disant que c'est une confusion de sa part et que les musulmans étaient au nombre de 700 lors de la bataille de Uhud. Quant à cette bataille, qui est la bataille des coalisés, ils étaient 3000. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait désigné Ibn Ummi Maktoum, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le remplacer dans la cité, ordonna que les femmes et les enfants se retranchent dans les fortins de la ville. Donc, l'organisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à se mettre en place. Après l'achèvement de la creusée de la tranchée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à la deuxième étape. Avant que l'ennemi n'arrive, il organise les groupes et il désigne ceux qui vont être les dirigeants et il montre aux musulmans où est-ce qu'ils, parmi les faibles parmi eux, qui sont les femmes et les enfants, où est-ce qu'ils doivent aller. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue: قال وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة هذا الرجل من قبيلة بني النضير ذهب إلى قبيلة بني قريظة ليحرضهم على المؤمنين فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم رئيس بني قريظة فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. Ibn Kathir a dit: Huyay ibn Akhtab, de la tribu des Banu Nadir, se rendit pour sa part dans la tribu juive des Bani Qurayza, dont il persuada le chef, Ka'b ibn Asad, de violer le pacte qui le liait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, vous allez voir, après avoir vu la trahison des Banu Qaynuqa', puis celle des Banu Nadir, la trahison des Bani Qurayza, la troisième tribu juive qui vit à Médine. Comment est-ce que cela est arrivé? La tribu des Bani An-Nadir a envoyé un homme issu d'eux qui répond au nom de Huyay ibn Akhtab An-Nadri. Ce dernier est allé au sud de Médine afin d'inciter les juifs qui vivent au sud, qui sont ceux de la tribu des Banu Qurayza, à rompre le pacte qu'ils avaient lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'une entrée puisse s'ouvrir au sud de Médine. Car les koufars n'arrivaient pas à entrer dans la ville de Médine, ni par le nord, ni par le sud, ni par l'est, ni par l'ouest. Et donc ils ont jugé bon, par leur égarement, d'aller inciter les juifs de Banu Qurayza, étant donné qu'ils sont leurs frères, puisqu'ils sont juifs eux aussi, ceux de Banu Nadir, à laisser le chemin afin que les koufars puissent entrer par le sud de Médine. Et il est dit, dans certaines sources de la biographie, que lorsque cet homme, Huyay ibn Akhtab, est venu au sud de Médine et qu'il a rencontré le chef de la tribu des Banu Qurayza qui s'appelle Ka'b ibn Asad, Ka'b ibn Asad l'a rejeté au début. Comme si qu'il a compris qu'un malheur ou qu'un mal allait les toucher dans le cas où il négociait, il discutait avec eux, ou bien il acceptait leur proposition. Il n'a cessé de le repousser, de rejeter sa demande. Jusqu'à ce que cet homme, Huyay ibn Akhtab, de la tribu des Banu Nadir, a réussi à convaincre les Banu Qurayza à rompre le pacte qu'ils avaient lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal'iyadu billah. Et ainsi, la troisième tribu juive a rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez dans le chapitre suivant combien sera grande la punition que va infliger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces hommes en raison de ce qu'ils ont fait comme injustice, alors que le prophète les protégeait dans la ville de Médine, alors qu'il leur a permis de vivre dans la sérénité et dans la sécurité sans être opprimés ni lésés. Ils ont décidé de rompre le pacte, et vous verrez par la suite ce qui leur est arrivé. Ka'b se joignit donc à la coalition des polythéistes contre le messager d'Allah, qui en furent réjouis. Ka'b ibn Asad, c'est le chef des Banu Qurayza. Il s'est, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, il s'est joint à la coalition des polythéistes, ce qui a fait grandir le nombre des ennemis. Wal'iyadu billah. Qala rahimahullah, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sa'dayn, ibn Mu'ad wa ibn Ubada. Sa'd ibn Mu'ad huwa sayyid al-Aws, wa Sa'd ibn Ubada sayyid al-Khazraj. Qala wa khawwat ibn Jubayr wa Abdullah ibn Rawaha liya'rifu lahu هل نقض بنو قريظة العهد أم لا؟ أرسلهم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأكدوا من صحة الخبر. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، أي المسلمون سبوا اليهود واليهود سبوا المسلمين. ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. Après avoir entendu cette information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens afin de confirmer cette information et de voir si elle est réelle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Ubada. Quant à Sa'd ibn Mu'adh, c'est le chef de la tribu des Aws de Médine. Et quant à Sa'd ibn Ubada, c'est le chef de la tribu des Khazraj de Médine. Et ces deux tribus forment les Ansar. Khawwat ibn Jubayr ainsi qu'Abdullah ibn Rawaha, de se rendre chez les Bani Qurayza afin de savoir si ces derniers avaient rompu le pacte qui les liait aux musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quatre hommes afin d'enquêter et de voir si cette information est véridique. Est-ce que vraiment les juifs de Banu Qurayza ont rompu le pacte? Est-ce qu'ils ont vraiment trahi, malgré la sécurité qu'on leur a donnée, malgré le calme dans lequel ils vivaient? Ils trouvaient de quoi manger, personne ne les agressait, personne ne les opprimait, ils n'étaient jamais lésés, ni dans le commerce, ni dans la vie de tous les jours, ni dans rien. Est-ce que ces gens-là ont vraiment trahi le pacte qu'ils avaient lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est le cas, la punition va être sévère. Il dit, lorsqu'ils s'approchèrent d'eux, ils constatèrent qu'ils ne dissimulaient ni leur animosité ni leur trahison envers les musulmans. Les uns insultèrent donc les autres, les juifs, qu'Allah les maudisse, osant même s'attaquer à l'honneur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Mu'adh les insulta donc avant que le groupe de musulmans ne s'en aille. Une fois arrivés, les quatre compagnons trouve les Juifs qui montrent leur animosité et qui insultent les musulmans. Nous sommes vos ennemis, nous sommes contre vous, nous allons aider Quraysh contre vous, nous allons vous tuer, vous, vos épouses, vos enfants, vous perdrez, vous quitterez la ville de Médine. Et les musulmans sont étonnés. Pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés? Ils leur ont accordé l'asile, ils leur ont ouvert les portes, ils vivaient en sécurité, ils trouvaient leur nourriture, leurs enfants, personne ne les touchait, leurs épouses, personne ne les touchait. Pendant tout ce temps-là, ils ont vécu dans le calme, dans la tranquillité. Et du jour au lendemain, ils se mettent à insulter les musulmans et à se mettre contre eux en ennemis. Subhanallah. Sa'd ibn Mu'adh, le chef des Aous, était tellement enragé et la colère s'était emparée de lui à un point, il les a insultés. Et les Juifs ont insulté les musulmans. Les musulmans ont répondu aux Juifs. Puis ils sont partis. Avec l'information confirmée, les Juifs ont bel et bien rompu le pacte qu'ils avaient lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد امرهم صلى الله عليه وسلم ان كانوا قد نقضوا الا يفوت ذلك في اعضاد المسلمين اي اذا رجعوا وقد تاكدوا من صحه الخبر فلا يعلن الخبر امام الملأ حتى يصير الامر فوضى فقد يخاف بعض المسلمين قال لئلا يورث وهنا اي ضعفا وان يلحنوا اليه لحنا اي لغزا فلما قدموا عليه قال ما وراءكم اي ما وجدتم في بني قريظه قالوا عضل والقاره عضل والقاره قبيلتان اللتان خانتا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرجيع في بعث الرجيع هم الذين قالوا يا نبي الله نحن مسلمون أرسل إلينا علماء يعلموننا فلما أرسل إليهم قتلوه فلما قال لهم عضل والقارة فهموا أن بني قريظة خانوا المسلمين حتى لا يفهم بقية الناس من المسلمين قالوا عضل والقارة يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر وكانوا كما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ابن كثير دي il continue à citer ce qui s'est passé lorsque les compagnons sont allés confirmer l'information. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait interdit, au cas où les Bani Quraïda avaient violé le pacte, de l'ébruiter au milieu des musulmans afin que ceux-ci ne soient pas démoralisés par cette nouvelle. Le prophète leur a dit, alayhi salatu wassalam, allez vérifier l'information. Si vous voyez que les Juifs nous ont trahis, soyez discrets. Ne le dites pas à tout le monde. Pourquoi? Car si les musulmans entendent que les juifs du sud ont trahi, peut-être qu'ils vont avoir peur et qu'ils vont être démoralisés ou déstabilisés. Les compagnons devaient utiliser une formule détournée que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait comprendre. Le prophète leur a dit, vous allez, au cas où les juifs nous ont trahis, nous donner une phrase que nous allons comprendre et que les gens ne comprendront pas. Et donc, lorsqu'ils furent devant lui, il leur demanda, « Qu'avez-vous trouvé là-bas » Le prophète est là devant tout le monde et il leur demande, « Qu'est-ce que vous avez trouvé à Bani Quraïda ? Est-ce qu'ils nous ont trahis ?» Ils répondirent, « Adal et Al-Qara ». C'était un code avec lequel le prophète a compris qu'ils ont rompu le pacte. Qui sont les gens de Adal al-Qara? Ce sont les gens qui sont à l'origine du meurtre des compagnons. Lorsque les gens sont venus voir le prophète, ils leur ont dit « Nous sommes musulmans et nous voulons que tu nous envoies des gens qui nous enseignent le Coran et qui nous enseignent la religion. » Ces gens-là venaient des deux tribus, Adal et al-Qara. Les compagnons leur ont dit, ils ont dit au prophète, Adal et Qara. C'est-à-dire, ils nous ont fait la même chose que Adal et Qara. C'est-à-dire, ils nous ont trahis. Donc le prophète a compris. Faisant ainsi allusion à la manière dont ces deux tribus avaient trahi les compagnons assassinés, Ar-Radi'a. Et si vous revenez au chapitre suivant, Ar-Radi'a, vous trouverez. Les musulmans en furent très affectés. La situation devenant très préoccupante, Allah tabaraka wa ta'ala décrit d'ailleurs leur état dans le verset qui suit, la traduction. À ce moment-là, les croyants furent terriblement éprouvés et violemment éprouvés. Et violemment ébranlés. قال ونجم النفاق وكثر واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم قالوا إنها عورة يعني فيها النساء والأبناء وهم ضعفاء فأذن لنا يا رسول الله بالرجوع إلى البيوت ليس بين العدو وبينها حائل وهم بنو سلمة بالفشل ثم ثبت الله كلتا الطائفتين ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم ابن كثير رحمه الله dit l'hypocrisie apparut alors au grand jour et se répandit. Car l'épreuve était tellement difficile qu'Allah Azza wa Jal a démasqué les hypocrites, comme vous allez en entendre les versets, inshallah. En outre, une partie des Bani Haritha demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation de retourner à Médine, car, prétextèrent-ils, leur maison était sans défense et exposée à l'ennemi. Ils ont dit au messager d'Allah, il y a nos femmes, il y a nos enfants qui sont faibles. On te demande l'autorisation de rentrer dans nos maisons car on ne peut pas rester ici. C'était un faux prétexte. Leur maison était sans défense et exposée à l'ennemi. De même, les Bani Salima pensèrent un moment à renoncer à combattre. Puis Allah raffermira finalement ces deux clans. Donc ils ont hésité. Ils ont voulu faire la même chose faite par les hypocrites. Mais à la fin, Allah Azza wa Jal les a raffermis. Et ils sont restés. Allah Azza wa Jal a dit وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Et lorsque les hypocrites et ceux qui avaient une maladie au cœur ont dit مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا Et lorsque une tribu d'entre eux a dit « Ô vous les gens de Yathrib » Yathrib, c'était l'ancien nom de la ville de Médine. « Il n'y a pas d'endroit pour vous, revenez !»« J'ai oublié le verset, mais le sens du verset, c'est que l'un d'entre eux demandait la permission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awra, in yuriduna illa firara » Il disait, nos demeures sont vides, c'est-à-dire il y a nos épouses, il y a nos enfants, alors qu'ils sont des menteurs. Et en vérité, ils ne voulaient que la fuite. Donc Allah les a dévoilés. Et il a dévoilé les hypocrites, subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes firent le siège de Médine durant un mois, sans que les combats ne soient engagés. En raison de la tranchée qu'Allah avait permis aux musulmans de creuser, et qui les protégeait de toute attaque ennemie. Lorsque les koufars sont arrivés et qu'ils ont vu la tranchée, ils ne connaissaient pas cette technique de protection. Donc ils ne savaient pas comment réagir, c'était nouveau pour eux. Et ils sont restés derrière le trou à regarder les musulmans pendant un mois. Subhanallah. Ils étaient 10 000, les musulmans étaient 3 000. Ils sont restés derrière le trou pendant un mois à regarder, à réfléchir comment est-ce qu'on va faire. Sans trouver de solution. Ils étaient tous armés, tous prêts à combattre. Il n'y a eu aucun combat. Il n'y a pas eu de combat. Ils n'ont pas réussi à rentrer à Médine, sauf certains d'entre eux, comme vous allez le voir, Inch'Allah ta'ala, et d'ailleurs qui ont été tués, grâce à Allah, par les musulmans. قال رحمه الله إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها هذه مكيدة نحن لا نعرفها في الحرب هذه الحفرة ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجاوزوه استطاعوا الدخول في المدينة وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلعة ودعوا إلى البراز المبارزة فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يديه وكان عمر لا يجارى في الجاهلية شجاعة وكان شيخا قد جاوز المئة يومئذ. Vous allez entendre une histoire wallahi étonnante. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: toutefois, certains cavaliers de Quraysh, dont Amr ibn Abdi Wud al-Amiri, s'approchèrent de la tranchée. Devant elle, ils se dirent entre eux: ce stratagème n'était pas connu des Arabes. Donc ces gens-là se sont approchés de la tranchée. Ils ont regardé le trou, ils étaient étonnés. Ils ont dit: wallahi, cette ruse, on ne la connaît pas. Donc ils ne savaient pas comment faire. Et ils ont cherché un endroit, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une possibilité de rentrer. Ils ont pris leurs chevaux et ils sont rentrés dans les trous jusqu'à ce qu'ils ont réussi à rentrer de l'autre côté et à arriver à Médine. Puis, profitant d'une partie étroite de la tranchée, ils la traversèrent et se retrouvèrent à chevaucher dans le camp musulman entre la tranchée et le mont Sal'a. Ils provoquèrent alors un duel des combattants musulmans. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fit alors face à Amr ibn Abdi Wud qu'il tua par la grâce d'Allah. Pourtant, avant l'avènement de l'islam, nul ne pouvait rivaliser de bravoure avec Amr. Mais lors de son duel contre Ali, il était un vieil homme de plus de 100 ans. Yani, subhanallah, Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Amr ibn Abdi Wud al-Amiri est un mécréant, un ennemi d'Allah Azza wa Jal. Il a plus de 100 ans, il monte sur le cheval, il traverse le trou, entre dans la ville de Médine et descend de son cheval pour se battre avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Yani, regardez comment Allah Azza wa Jal veut égarer quelqu'un. Jusqu'à 100 ans, il combat encore l'islam et les musulmans. Jusqu'à 100 ans, c'est encore un ennemi d'Allah, Azza wa Jal. Premier point. Deuxième point, regardez les ennemis d'Allah, Azza wa Jal, qui ne lâchent jamais la prise. Même à 100 ans, ils font tout pour combattre les musulmans. Alors qu'aujourd'hui, on trouve des musulmans qui sont en pleine forme et qui sont capables de faire beaucoup de choses pour la communauté, mais qui sont paresseux et fainéants. Alors que eux, ils ont la vérité avec eux. Troisième chose, lorsque Ali ibn Abi Talib radiyallahu an a affronté cet homme-là, il est dit dans certaines sources de la biographie que Ali ibn Abi Talib radiyallahu an a dit à cet homme-là: accepte l'islam. Et lui a répondu: je n'accepte pas cette religion. Ali lui a dit: descends du cheval et affronte-moi. Il est descendu, Ali est descendu, il a pris son épée, il s'est avancé. Et subhanallah, Ali a fait preuve de ruse. Il lui a dit: je ne vous ai pas dit de venir à deux, je t'ai dit de venir tout seul. Amr ibn Abdi Wud n'a pas compris. Il s'est retourné pour voir qui est venu avec lui. Et quand il s'est retourné, Ali lui a tranché la tête. Radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: al-harbu khud'a. La guerre est une ruse et il est permis de mentir à l'ennemi pendant la guerre. Ensuite, les savants ont parlé sur l'authenticité de cette histoire, notamment l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, en disant qu'il n'a pas trouvé de chaîne de transmission pour affirmer l'authenticité, mais les historiens ne sont pas aussi stricts lorsqu'ils parlent des histoires de la biographie qu'ils le sont avec les hadiths, desquels on tire des règles, surtout dans lesquels on tire des règles. Quand ce sont des histoires desquelles il ne découle pas de halal ou haram, ils ne sont pas stricts comme ils le sont avec les hadiths. Donc ils laissent les histoires et ils les lisent. Ils les lisent. Après, au niveau de l'authenticité, Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم وكان شعار المسلمين في تلك الغزوة حاميم لا ينصرون أي بهذه الكلمة يعرف بعضهم بعضا من أنت يجيب حاميم لا ينصرون خلاص أنت مسلم من أنت حاميم لا ينصرون إذن أنت مسلم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: les autres assaillants revinrent alors sur leurs pas, prémisse à la débandade des polythéistes qu'Allah provoquera par la suite. Le mot de ralliement des musulmans au cours de ce siège était Hamim, ils ne seront pas secourus. Car à chaque fois qu'il y avait une bataille, ils avaient un mot qui servait de code entre eux pour se reconnaître. Dans le cas où ils sont dans la nuit, il ne sait pas qui est devant lui. Comment est-ce qu'il va le reconnaître? Il va dire: qui es-tu? Et l'autre devra répondre: Hamim la yunsarun. Hamim, ils ne seront pas secourus. S'il entend ce code, il sait que celui qui est devant lui est forcément avec lui. Il fait partie des siens. قال ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المراوضة على ذلك ولم يتم الأمر حتى استشار السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة إن كان الله أمرك أن تعطيهم ثلث ثمار المدينة ليذهبوا ويتركونا فسمعا وطاعة وإن كان شيئا تصنعه لنا أي هذا من عندك فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قيرا أو بيعا فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم أي هذا من عندي وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا. ابن كثير رحمه الله تعالى جي. La situation devenant insupportable pour les musulmans, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulut conclure un traité de paix avec les chefs de Ghatafan, Uyayna ibn Husn et Al-Harith ibn Auf, en leur proposant le tiers des récoltes des dattes de Médine s'ils repartaient avec les leurs. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfléchi. Depuis un mois, ils sont assiégés. Il n'y a pas de nourriture. Les musulmans sont fatigués, affaiblis, le vent est glacial, la difficulté est intense. Il réfléchit à des stratégies. Il se dit que peut-être il va faire un traité de paix avec les gens de Ghatafan en leur donnant le tiers des fruits qui poussent à Médine. Et à cette époque-là, les dattes de Médine sont très bonnes, de très bonne qualité. Et la quantité est très grande. Et les gens de Ghatafan, lorsqu'ils sont venus à Médine, pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Parce que les gens de Banu Nadir leur ont dit: si vous venez avec nous à Médine et que l'on bat les musulmans, on vous donnera la moitié des fruits de Médine. Ils sont venus pour la dunya, même si certes ils sont les ennemis des musulmans, mais leur plus gros souhait était les fruits de Médine. Et donc le prophète leur a dit, je vous donne un tiers des fruits de Médine et vous partez. Puis, la discussion a eu lieu entre eux. La négociation a eu lieu entre eux. Vous donnez plus, non, on donne moins, et ainsi de suite. Ibn Kathir, rahimahullah, continue. Et dit, des discussions s'engagèrent à ce sujet, mais sans qu'un accord aboutisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulta en effet à ce sujet Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn Ubada qui lui répondirent « Ô messager d'Allah, si c'est Allah qui t'a ordonné cela, alors notre obéissance t'est acquise. » C'est-à-dire que si ce que tu leur as proposé de leur donner un tiers des fruits de Médine, c'est un ordre qui vient d'Allah azza wa jal, c'est qu'il y a une sagesse et un bien qui nous échappe. On se soumet à cet ordre et notre obéissance t'est acquise. Mais si tu agis ainsi, dans notre seul intérêt, c'est-à-dire que si c'est toi qui, à la recherche de notre intérêt, recherches à faire cette chose-là, alors sache que lorsque nous étions comme ces gens, des polythéistes et des idolâtres, ils n'auraient jamais espéré manger une seule de nos dattes sans en payer le prix ou sans y être invités par nous. Et maintenant qu'Allah nous a honorés en nous guidant vers l'islam et nous a rendus puissants par toi et par cette religion, il faudrait que nous leur donnions ce que nous possédons. Par Allah, ils ne recevront que nos coups de sabre. C'est-à-dire, ils ont dit, ô messager d'Allah, lorsque nous étions polythéistes, comme eux, on était pareil. Nous étions polythéistes dans la même situation et s'ils mangeaient de nos dattes, c'est soit parce qu'on les invitait, ou soit parce qu'on leur vendait. Mais jamais ils prenaient comme ça. Et maintenant que nous sommes musulmans fiers et que nous avons la vérité, nous allons leur donner de nos dattes. Wallahi, on ne leur donnera jamais. Et on ne leur donnera qu'une chose, le sabre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, je n'agis ainsi que dans votre intérêt. Se rangeant à leur avis, il abandonna l'idée d'un traité de paix. Puis Allah, loué soit-il, fit en sorte que les uns abandonnent les autres et fit éclater leur coalition. ثم إن الله سبحانه وتعالى وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم وذلك أن نعيم بن مسعود ابن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت سبحان الله أسلم في هذا اليوم وأراد نصرة الإسلام على الفور فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit en effet Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amr de la tribu de Ghatafan se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ô messager d'Allah, j'ai embrassé l'islam, alors donne-moi l'ordre que tu veux. C'est-à-dire que pendant cette bataille il a accepté l'islam, immédiatement il a voulu donner ses services pour secourir l'islam. Dès qu'il s'est converti, il s'est dit, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je sois utile pour les musulmans. Et comme les Ghatafan ne savent pas que je suis converti, Quraysh ne savent pas, Banu Qurayza ne savent pas, je vais user de ruse. Et donc, il va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, tu es seul. Alors, si tu le peux, fais en sorte que certains se retirent de cette coalition, car la guerre, c'est l'art de tromper l'ennemi. C'est-à-dire, tu es seul. Certes, tu ne vas pas pouvoir les combattre. Mais comme ils ne savent pas que tu es musulman, va ruser avec eux. Et va semer la zizanie entre eux et la discorde. Et c'est ce qu'il a été faire, comme vous allez le voir. قال فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها إلا إن شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم قالوا فما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن قالوا لقد أشرت بالرأي ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم تعلمون ودي أي محبتي ونصحي لكم قالوا نعم فقال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن كل هذا كذب رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. Puis cet homme-là a fait preuve de ruse, comme va le dire Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Il dit, Nu'aym ibn Mas'ud se rendit aussitôt chez les Bani Quraïda, qu'il fréquentait avant l'islam et qui ne savait rien de sa conversion. Il leur dit, ô Bani Quraïda, vous avez combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il parle de leur trahison. Muhammad est au courant que vous l'avez trahi et que vous l'avez combattu. Or, soit les hommes de Quraysh se saisiront de l'occasion qui se présentera à eux, soit ils retourneront chez eux et vous laisseront seuls face à Muhammad qui se vengera de vous. Il leur dit, vous avez trahi Muhammad, Muhammad est au courant. Maintenant, il y a deux situations possibles. Soit Quraysh va réussir à battre Muhammad, soit ils ne vont pas réussir. Dans le cas où ils ne réussissent pas, ils vont fuir à la Mecque et vous, vous vivez avec eux à Médine. Ils vont se venger de vous pour les dissuader de combattre. Ils dirent, comment devons-nous agir, ô Nu'aym ? Il répondit, ne combattez pas à leur côté tant qu'ils ne vous auront pas donné des personnes en gage. C'est-à-dire ne participez pas au combat avec eux jusqu'à ce qu'ils vous donnent des gages. Des garanties, na'am. Et ces gages seront des personnes. Ce que tu dis est le bon sens, même, dirent-ils. Donc ils ont accepté. Puis Nu'aym ibn Mas'ud alla trouver Abu Sufyan et les hommes de Quraysh. Une fois qu'il a terminé sa ruse avec Banu Quraïda, il va faire la même avec Quraysh, auquel il dit, vous connaissez l'affection que je porte et ma sincérité envers vous. Vous savez que je vous aime et que je suis proche de vous. Oui, répondirent-ils. Il poursuivit, les Juifs regrettent, bien sûr, tout ce que vous allez entendre, c'est du mensonge, et le mensonge est autorisé dans la guerre. Il dit, les Juifs regrettent d'avoir violé leur pacte avec Mohammed et ses compagnons. Ils lui ont envoyé un messager pour les informer qu'ils vont vous réclamer des gages qu'ils lui remettront, puis qu'ils le soutiendront contre vous. Voyez les gages dont il a parlé en premier. Et donc, Banu Quraïda va demander des gages à Quraysh. Et avant qu'il n'aille demander les gages à Quraysh, Nu'aym se précipite vers Quraysh et leur dit, attention, ils vont vous demander des gages et en fait, ils vont les donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il se dirigea vers les gens de sa tribu, Ghatafan, auquel il tint le même langage. Donc, il a fait la même chose avec la troisième tribu. « Qala falamma kana laylatu sabd min shawwal ba'athu ila yahud ay quraish ay ila bani quraidha inna lasna bi ardi muqam fanhadu bina ghadan nunajizu hadha ar-rajul fa arsala ilayhim al-yahud إن اليوم يوم سبت ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله نعيم ابن مسعود وبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا فقالت بنو قريظة صدق والله نعيم وأبوا أن يقاتلوا معهم. Vous allez voir que la discorde commence à naître dans les rangs des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il se dirigea vers les gens de sa tribu Ratafan, auxquels il tint le même langage. La veille du samedi, qui est le jour connu où les juifs n'ont pas le droit d'avoir des activités, la veille du sabbat, en ce mois de Shawwal, les polythéistes firent parvenir ce message aux juifs. Nous n'avons pas l'intention de nous éterniser sur cette terre. Aussi, attaquez avec nous cet homme demain. Donc maintenant, le peuple de Quraysh va tester Bani Qurayza, car ils se sont basés sur la fausse information de Nu'aym. Et ils se sont dit, en fait, ils vont nous trahir. Donc ils ont envoyé des gens pour les voir et pour leur dire, on n'a plus de temps à perdre, venez avec nous combattre les musulmans. Et c'était le jour du samedi. Et les juifs n'ont pas le droit de travailler le jour du samedi. Les juifs leur firent répondre, ce jour est le jour du sabbat. En outre, nous ne combattrons à vos côtés que si vous nous donnez des gages. Ils disent, premièrement, on est samedi. On n'a pas le droit de travailler le samedi. Et même si on n'était pas samedi, on vient avec vous si vous nous donnez des gages. Quraysh qui entend ça se dit, Nu'aym a dit la vérité. Ils vont nous prendre des hommes et les donner à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque leur vint le messager porteur de cette réponse, les hommes de Quraysh dirent, par Allah, Nu'aym ibn Mas'ud avait dit vrai, alors qu'il a menti. Mais cela faisait partie de sa ruse. Ils envoyèrent donc ce message aux Juifs. Par Allah, nous ne vous enverrons personne. Alors, combattez avec nous. Les Bani Qurayza se dirent alors, par Allah, Nu'aym disait vrai. Ils se refusèrent donc de prendre part au combat à leur côté. Donc il a réussi à troubler les rangs des ennemis d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa arsala Allahu azza wa jalla ala Quraysh wa man ma'ahum al-junud والريح تزلزلهم فجعلوا لا يقر لهم قرار ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب ولا قدر ولا شيء فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, ils se refusèrent donc de prendre part au combat à leur côté. Par ailleurs, Allah le Tout-Puissant envoya contre Quraysh et ses alliés des armées d'anges, ainsi qu'un vent qui les ébranla, si bien qu'ils ne goûtèrent plus un seul instant au repos, et que pas une seule de leurs tentes ou de leurs marmites ne resta en place. Donc, de l'intérieur, ils commencent à se diviser. Ensuite, Allah Azza wa Jal envoie un vent violent, un vent glacial. Et ils sont là depuis un mois à attendre. Ils commencent à se lasser, ils commencent à en avoir marre. Et donc, comme vous allez le voir, les tentes qu'ils avaient fixées au sol ne tenaient plus tellement le vent était violent. Et les marmites qu'ils utilisaient pour cuisiner ne tenaient plus tellement le vent était fort. Donc ils ont commencé à se lasser de rester à cet endroit et ils ont commencé à prendre la décision de quitter cet endroit, de s'en aller. قال وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يخبر له خبرهم فوجدهم كما وصفنا ورأى أبا سفيان يصلي ظهره بنار أي أشعل نارا واقترب يعني من النار حتى يسخن ظهره من شدة البرد ولو شاء حذيفة لقتله ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأخبره برحيلهم أي أخبره أنهم ترحلوا وعادوا إلى مكة. ابن كثير رحمه الله تعالى dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم envoya حذيفة ابن اليمان dans le camp des coalisés afin de l'informer de leur état. il les trouva dans la situation décrite précédemment, c'est-à-dire la difficulté et la lourdeur de l'épreuve, et vit Abu Sufyan en train de se réchauffer le dos devant un feu. S'il l'avait voulu, il aurait même pu le tuer. Mais il retourna de nuit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il informa de leur départ. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décidé d'envoyer Hudhayfa, radiyallahu anhu, afin de faire le guet et de voir qu'est-ce qui se passe chez l'ennemi. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. C'est le hadith 1788. Et dans ce hadith, un tabi'i a dit qu'un jour, il a dit cette parole. Un homme a dit, « Kunna inda Hudhayfa, nous étions auprès de Hudhayfa, radiyallahu anhu, faqala rajulun, لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت يعني تمنى لو كان معه وقاتل معه. Un homme a dit, si seulement j'étais avec le prophète صلى الله عليه وسلم pour combattre avec lui et éprouver la difficulté. حذيفة, après avoir entendu cette parole, a dit, فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك تدري ما تقول تتمنى البلاء الشديد أقص لك ما هو البلاء الذي عشته مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة lui dit, vraiment tu aurais fait ça, c'est-à-dire tu ne sais pas de quoi tu parles, tu espères avoir vécu à l'époque avec le prophète عليه الصلاة والسلام pour éprouver les difficultés, écoute la difficulté que j'ai éprouvée. Et là il va lui raconter, il lui dit, لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر والقر هو البرد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم يجيبه منا أحد وعادة الصحابة إذا سمعوا مثل هذا الكلام أن يجيبوا سريعين على الفور لكن بشدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد وشدة البلاء لم يجيب أحد سبحان الله. Donc Hudhayfa a dit, je me souviens lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit des coalisés, lorsqu'un vent violent nous frappa et il y avait un vent glacial. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette nuit-là, n'est-ce pas qu'un homme va me chercher les informations du peuple ennemi et qu'Allah le place à côté de moi le jour de la résurrection? Et quand les compagnons entendent une parole comme cela, ils ont l'habitude de répondre immédiatement. Le prophète dit, celui qui fait cette chose sera avec moi au paradis. Ils ne perdent pas de temps, ils répondent. Mais cette nuit-là, tellement la difficulté était intense, tellement la faim, la soif, le froid, le vent glacial. Il y avait le vent qui poussait le sable et qui le sable qui frappe la peau et qui coupe la peau. Tellement c'était froid et fort. Personne n'a répondu. Hudhayfa a dit, fasakatna, falam yujibhu ahad. Nous nous sommes tus et personne d'entre nous n'a répondu. Subhanallah. Le prophète leur dit, vous serez avec moi au paradis. Ils n'ont pas répondu. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire à cet homme-là, tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand il dit, j'aurais aimé être avec le prophète pour combattre avec lui et éprouver la difficulté. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Nous, lorsque nous étions avec lui et que le prophète nous a dit cette nuit-là, celui qui y va sera avec moi au paradis, personne ne répondait. Subhanallah. Il continue et dit, ثُمَّ قَالْ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِ بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le prophète réitère, n'est-ce pas qu'un homme va me chercher les informations de l'ennemi et il sera avec moi le jour de la résurrection. فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدْ. Nous nous sommes tués et personne d'entre nous n'a répondu. ثُمَّ قَالْ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِيبُهُ مِنَّا أَحَدْ. Et le prophète a répété une troisième fois, n'est-ce pas qu'un homme va se lever aller chez les ennemis, voir l'information et me la ramener. Nous nous sommes tués et personne n'a répondu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'appeler Hudhayfa. فَقَالَ قُمْ يَا حُذَيْفَ. Le prophète a alors dit, « Oh Hudhayfa, lève-toi. » Et donc Hudhayfa a été obligé de répondre parce qu'il l'a appelé par son nom. Il n'a pas le droit de désobéir. Et dans une version du hadith, la nuit était tellement sombre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qui était à côté de lui. Et donc avec ses mains, il a cherché, il a touché les cuisses de Hudhayfa. Puis il a dit, « Hudhayfa ?» Hudhayfa a resté un instant comme ça, il est obligé de répondre. Il a dit, « Na'am, ya Rasulallah, c'est moi. » Le prophète lui a dit, « Qum ya Hudhayfa, lève-toi et va chez les ennemis. » C'est-à-dire, va de l'autre côté et va écouter leur discussion. Va voir comment, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent faire.
« Qala, qum ya Hudhayfa, fa'tina bi khabari al-qawm. Falam ajid buddan, idh da'ani bismi an aqum. »
Hudhayfa dit, « Je n'ai trouvé aucune échappatoire et je devais répondre à son appel puisqu'il a cité mon nom. »
Sallallahu alayhi wa sallam. « Qala dhab, fa'tina bi khabari al-qawm wa la tad'arhum alay. La tqatilhum wa la tu'allibhum alayna. »
Le prophète lui dit, « Lève-toi. » Va me soutirer les informations du peuple et ne les excite pas contre moi. C'est-à-dire, ne leur fais rien, ne te fais pas remarquer, ne tue personne, ne fais rien. Écoute leurs informations et reviens et transmets-moi tout ce que tu as entendu.
فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ
يعني بارك الله عز وجل كان في شدة برد لكن أطاع رسول الله فجعله كأنه في حمام. سبحان الله. حذيفة dit, puis lorsque je me suis levé et pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais l'impression d'être dans un bain, un hammam, un sauna, un endroit où il fait tellement chaud, où il fait très chaud. Pourquoi? La baraka de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, il ne ressentait plus la peur, ni la faim, ni la soif, ni la froid, ni le froid, pardon. Au moment où il s'est levé pour obéir, Allah Azza wa Jal a mis une baraka en lui, il lui a enlevé tous ses problèmes. Jusqu'à ce qu'il est revenu, comme vous allez le voir, dès qu'il est revenu, tout est revenu. Et ça montre la baraka, que des fois, tu vois un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu te dis, si je fais, ou si je m'exécute et j'obéis à cet ordre, je vais perdre telle et telle chose. Mais tu ne sais pas quelle est la baraka qu'Allah va te donner. Combien sont les gens qui disent, oui, je sais que mon travail est haram, est illicite. Et si je le délaisse, qui va nourrir mes enfants? Hudhayfa n'a pas dit cette chose-là. Il risquait la mort. Est-ce qu'il savait que quand il allait se lever, il n'allait plus avoir faim, ni soif, ni peur, ni froid? Il ne savait pas. La baraka vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi il faut obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Hudhayfa radiyallahu anhu se lève et a l'impression d'être dans un endroit où il y a de la vapeur tellement il fait chaud.
قال حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بنار.
Il dit, lorsque je me suis approché d'eux, j'ai vu Abu Sufyan réchauffer son dos avec du feu. Puis il dit,
فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته.
حذيفة dit, j'ai vu devant moi Abu Sufyan. J'ai saisi mon carquois, le laitui où il y a les flèches, et j'ai pris une flèche, je l'ai mis sur mon arc et j'ai commencé à le viser. Mais je me suis rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ne fais rien, prends les informations et ne fais rien d'autre. Alors j'ai rangé la flèche et si je voulais, j'aurais pu le tuer.
Puis il dit, فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ.
Et alors je suis revenu avec les informations, toujours avec l'impression d'être dans un hammam.
فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت.
Puis il dit, lorsque je suis revenu, j'ai transmis toutes les informations au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce peuple, je me suis installé.
فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها.
Puis il dit, donc le froid est revenu, et alors le prophète عليه الصلاة والسلام lui a donné un morceau de son vêtement pour le recouvrir, pour se réchauffer.
فلم أزل نائما حتى أصبحت.
Je n'ai cessé de dormir toute la nuit jusqu'à me lever, jusqu'à arriver au matin.
فلما أصبحت قال قم يا نومان.
Et lorsque le matin est arrivé, le prophète m'a dit, lève-toi, ô toi le dormeur. Donc, voici l'histoire de l'information que Hudhayfa radiyallahu an a soutiré les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala.
قال فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة ووضع الناس السلاح فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أوضعتم السلاح والنبي يتعجب لأن الغزوة انتهت والعدو انصرف ويأتي جبريل ويقول له لماذا وضعت السلاح قال أما نحن أي الملائكة فلم نضع بعد أسلحتنا أنهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة والباب الذي يأتي بعده هو الفصل في غزوة بني قريظة. ابن كثير رحمه الله تعالى دي Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Hudhayfa ibn al-Yaman dans le camp des coalisés afin de l'informer de leur état. Il les trouva dans la situation décrite précédemment et vit Abu Sufyan en train de se réchauffer le dos devant un feu. S'il l'avait voulu, il aurait même pu le tuer. Mais il retourna de nuit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il informa de leur départ. Le lendemain matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna à Médine et les musulmans déposèrent les armes. Pourquoi ? Les koufars se sont en allés, ils sont partis. Donc, et d'ailleurs, lorsque Hudhayfa radiallahu anhu a écouté les koufars en train de parler, lorsqu'il s'est introduit chez les koufars, il a entendu Abu Sufyan dire, nous sommes là depuis un mois, nous n'avons rien fait, il fait froid, nous sommes fatigués, ça ne sert plus à rien de partir. D'autres ont dit qu'il fallait rester, ça ne sert plus à rien de rester. D'autres ont dit qu'il fallait rester, et ils ont commencé à diverger entre eux. Puis Abu Sufyan n'a pas supporté la divergence, et il a ordonné à Quraysh de faire demi-tour. Et alors ils sont partis. Puis quand l'espion est revenu voir le prophète Hudhayfa radiallahu anhu alayhi salatu wassalam et qui lui a donné cette information, les musulmans ont déposé leurs armes, comme le dit Ibn Kathir rahimahullah. Vint alors Jibril. Quand ils ont déposé leurs armes, Jibril est venu tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait le corps dans l'appartement d'Umm Salama, une de ses épouses. Il lui dit, as-tu déposé les armes? Et le prophète est étonné, car l'expédition est terminée, la bataille est terminée, les koufars sont partis, et pourtant Jibril vient lui dire, pourquoi est-ce que tu as déposé les armes? Car nous les anges, nous n'avons pas encore déposé nos armes. Lève-toi et attaque ces gens-là. De qui est-ce qu'il parle? Des juifs de Bani Qurayza, les juifs du sud de Médine qui ont trahi. Jibril est venu et lui a dit, vous n'avez pas terminé. Certes, eux, les koufars, sont partis, mais les juifs qui vous ont trahis, Allah t'ordonne d'aller te venger d'eux. Il t'ordonne immédiatement de reprendre les armes et de venger d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement ordonné à ses compagnons, radiyallahu
anhum de se diriger dans le sud de Médine vers les juifs de Bani Qurayza afin de se venger de la trahison dont ils ont été les auteurs. Et c'est ce qui fera l'objet du prochain dars dans le prochain chapitre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut aussi noter que les compagnons radiallahu anhum ont répondu immédiatement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la longueur de ce mois au cours duquel les compagnons ont été épuisés, ils ne trouvaient plus de quoi manger, mais ils ont répondu immédiatement, comme vous allez le voir dans le prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala. Et pour réviser l'histoire de la bataille d'Al-Ahzab, on la retrouve dans le Coran. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de cette bataille, sourate Al-Ahzab, les coalisés. Nous allons donc lire les versets, du moins la traduction des versets pour aller vite, pour aller plus vite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans la traduction des versets, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, donc ceci est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala adressée aux musulmans après la bataille des coalisés. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent, des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Allah Azza wa Jal dit aux croyants, rappelez-vous du bienfait d'Allah et n'oubliez jamais ce jour-là. N'oubliez jamais ce jour où les ennemis sont venus vous attaquer sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous n'étiez pas au courant. Mais Allah Azza wa Jal vous a protégé. Il a envoyé un vent violent, subhanahu wa ta'ala. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire d'en haut par le nord de Médine, ils sont arrivés mais ils ont trouvé la tranchée. Et d'en bas, par le sud de Médine, avec Bani Qurayza qui leur a accordé l'accès, wal'iyadu billah, ou du moins qui leur a, Bani Qurayza qui a ouvert la porte au peuple de Quraysh, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. L'épreuve était tellement dure qu'ils se regardaient les uns les autres et ils se demandaient comment est-ce que cela allait finir. Mais Allah Azza wa Jal les a protégés. Et c'est pourquoi la punition qui va être infligée à Bani Qurayza va être sans précédent. Elle va être terrible. Car si Allah Azza wa Jal ne les avait pas protégés, les 10 000 kuffars seraient rentrés par Bani Qurayza si Allah n'avait pas envoyé le vent violent, subhanahu wa ta'ala, et ne les avait pas protégés. Et alors là, les femmes, les enfants auraient pu périr, car Quraysh n'avait aucune pitié. Donc c'est pour ça que la vengeance avec Bani Qurayza va être différente de la vengeance avec Bani Nadir et Bani Qaynuqa, les deux tribus juives qui ont aussi trahi. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Les hypocrites de Médine ont vu les kuffars entourer Médine et ils ont dit, ils nous ont promis la victoire. Vous voyez bien que c'est un mensonge. Voyez bien qu'Allah et son prophète nous ont trompés. Wal'iyadu billah. De même, un groupe d'entre eux dit, ô vous les habitants de Yathrib, c'est-à-dire de Médine, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la permission de partir en disant, nos demeures sont sans protection, alors qu'elles ne l'étaient pas, ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé. C'est-à-dire,
que ces hypocrites qui ont, après la bataille des coalisés, continuent à cacher leur foi, si les kuffars avaient réussi à rentrer dans la ville de Médine, ils n'auraient plus caché leur mécréance, et ils l'auraient montré. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal dit, jamais la fuite ne vous sera utile. Si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez, dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde, et ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Après la bataille des coalisés, Allah tabaraka wa ta'ala continue à planter la graine du tawhid dans le cœur des croyants. Et il leur dit, vous savez ces gens-là qui veulent fuir, ces hypocrites, allez les voir. Et dites-leur, pensez-vous fuir le décret d'Allah azza wa jalla? Si Allah vous voulait un mal, pensez-vous fuir ce mal? Si Allah vous voulait un bien, pensez-vous repousser ce bien? Et c'est ainsi que les croyants doivent être éduqués. Et le but de la sira n'est rien d'autre que faire évoluer la graine du tawhid dans le cœur du croyant. Celui qui étudie la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, doit ressortir avec un tawhid ferme. Tawhid thabit fil qalb wa imanun rasikh fil qalb, avec une foi ferme dans le cœur. Allah Azza wa Jal continue dans la traduction des versets, et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères, venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. De qui est-ce qu'Allah parle ici? De qui est-ce qu'il parle? Des hypocrites, ceux qui sont lâches au combat et qui allaient voir les groupes des croyants un par un pour leur dire, laissez les croyants et venez avec nous. Vous allez être perdants de toute façon, alors venez avec nous. Avec Quraysh, vous allez peut-être gagner. Avare à votre égard. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous la serrent avec des langues affiliées alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc renvaine leurs actions et cela est facile à Allah. Allah Azza wa Jal parle de la situation des hypocrites. Ils regardent. S'ils voient que les musulmans gagnent, ils restent avec les musulmans. S'ils voient que les kuffars gagnent, ils restent avec eux. Wal'iyadu billah. Et donc si les musulmans gagnent, ils diront aux musulmans, nous étions avec vous, nous vous avons secouru. Et si les kuffars gagnent, ils leur diront, nous étions avec vous, nous avons secouru. Regardez la situation des hypocrites. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ne soyez pas des hypocrites, ne soyez pas instables, ne soyez pas hésitants. Prenez en exemple le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui lui a été hésitant. Et certes, c'est ce qu'ils ont fait. Regardez les versets suivants. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Subhanallah. La différence entre les hypocrites et les croyants. Les croyants ont vu 10 000 hommes arriver. Ils n'étaient que 3 000. Et ils ont dit, voici la promesse d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit que la vérité. Nous allons rester et nous sommes fermes dans la foi. Et leur foi a grandi. Leur foi en Allah Azza wa Jal a augmenté. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal continue dans la traduction bien sûr. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ils étaient tellement sincères qu'ils ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont rien changé de leur façon d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله